88.3 FM.
Bah, je sais pas qu'est-ce qu'on se raconte.
Je voudrais mettre le doigt sur un truc énorme, le clitoris.
Il y a un personnage d'Astérix qui s'appelle Clitorix ou pas?
Ok.
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 Les femmes, c'est, justement, on n'en parle pas assez. On dit que c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. Les femmes font un très bon travail. Les meetings, les femmes prennent la parole, les femmes organisent, les femmes. Je sais pas, il y a des femmes, donc elles participent, et non pas en obéissant en tant mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire.
Les clitorisiennes.
Les clitorisiennes. Ici les clitorisiennes.
Ouais, les clitorisiennes.
Radio Campus 88.3.
Bonjour à tous, c'est Glitch au micro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet important, la fatigue de genre. Quand on a évoqué avec Bikini Kill ce sujet, le premier truc qui m'est venu à l'esprit a été un soupir de soulagement et un peu de fatigue, justement. En plus de vivre une charge mentale largement documentée et qui augmente au fur et à mesure que la famille s'agrandit, les femmes doivent en plus se coltiner la charge éducationnelle. Je m'explique. Les femmes en ont marre de devoir sans cesse éduquer, expliquer et justifier la lutte pour l'égalité. Je me permets de vous donner quelques anecdotes personnelles pour vous éclairer sur le sujet. Je me vois expliquer à un collègue, je rappelle que je suis prof, que oui, il doit laisser sortir les filles quand elles ont leurs règles et qu'elles ne font pas semblant pour l'embêter. Je me vois rappeler à mon frère que si je ne me lève pas de table pour débarrasser, c'est parce que j'attends qu'un de ces messieurs veuille bien se lever afin de répartir les tâches collectives dans un monde où les femmes consacrent en moyenne 1h30 de plus que les hommes aux tâches ménagères, selon l'Observatoire des inégalités. Et je me vois rappeler à une connaissance dans un bar que non, sa blague sur les violences conjugales ne passe plus quand on dénombre une victime de féminicide tous les 2 jours, depuis début 2026. Quand je fais tout ça, je fais de la pédagogie, j'explique, et malgré le fait que ce soit mon métier, je suis pas rémunérée sur mon temps personnel, évidemment. Et ce sont, bien entendu, les moments où j'essaierai patiemment d'expliquer qu'ils choisiront pour dire qu'ils ne peuvent plus rien faire ou dire. Car comprenez bien qu'eux aussi sont fatigués de devoir constamment marcher sur des œufs, fatigués de devoir prendre l'escalier parce qu'ils ont peur de prendre l'ascenseur avec des filles, fatigués de la discrimination positive qui ne met que des incompétentes au poste auquel ils auraient eu droit si ces mesures n'étaient pas mises en place. Il y a donc 2 aspects à la fatigue de genre. Les femmes et militants pour l'égalité ont l'impression de brasser de l'air et que malgré des efforts intenses de pédagogie, rien n'avance. Et les hommes ont l'impression de faire les frais de politiques féminazies qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs personnels. Ce sont ces 2 points de vue qui caractérisent depuis 2009 aux États-Unis la gender fatigue. La question est de savoir comment ces 2 mots coexistent et si les interrogations des unes et des autres sont vraiment comparables. C'est pour ça qu'on a décidé d'inviter Vincent Patignès, qui a écrit tout un livre sur le sujet et qui pourra nous en dire plus. En ce qui me concerne, je suis sans doute biaisée, mais je penche plutôt pour une fatigue légitime face à une fatigue qui tient bien plus du backlash que d'autres choses. J'ajouterais juste que malgré la fatigue de genre, les militantes continuent la lutte, parfois au prix de leur santé mentale, et ça, c'est à mon sens inacceptable. Alors courage à celles qui militent pour les droits de tous et prenez soin de vous.
Mais oui. Moi, Glitch, je pense que c'est juste le changement d'horaire. Bonjour à tous, déjà. Je pense que c'est juste le changement d'heure, là, qui
t'a fatigué. C'est pour ça qu'on est fatigué.
Ouais, ouais.
Bah oui, je pense, oui. Oui.
Non, en vrai, on est très fatigué. On n'est pas que fatigué. On est très contente quand même de vous retrouver pour cette émission des clitoriciennes, donc, sur le 88.3 Radio Campus Orléans. Et effectivement, on accueille à nouveau, mais ce n'est pas la première fois, Vincent Patignès. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Ça va? Pas trop fatigué?
Eh ben, un peu quand même. Hein.
Un petit peu, surtout que ton livre vient de sortir. Il est sorti quand exactement?
Eh bien, le 24 avril dernier.
Donc, tu es occupé là par la promo.
Mars plutôt.
Mars, ouais,
ouais, on est en avril, le 24 mars plutôt, c'est mieux.
Oui, voilà.
Il est déjà sorti.
Il est déjà sorti. Et du coup, tu t'occupes de la promo, j'imagine?
Eh bien, en ce moment, en effet, avec mon éditeur Étienne aux éditions Double Ponctuation, en ce moment, en effet, on est sur un mode eh bien, promotion et plus dans un mode partage du livre, on donne connaissance de l'ouvrage, etc. Voilà, ça c'est important.
Oui, je te remercie de citer l'éditeur parce que c'est un éditeur militant quand même, donc je pense que c'est important de le préciser. Tu as déjà publié chez Double Ponctuation, c'était d'ailleurs dans ce cadre que nous t'avions aussi reçu. Tu peux nous parler peut-être de ton premier ouvrage chez Double Ponctuation avant qu'on aborde ton nouvel ouvrage, donc qui s'intitule « Comment survivre à votre fatigue de genre ». Peut-être juste un petit deux ou trois mots sur le précédent, s'il te plaît.
Eh ben avec plaisir. Donc, mon précédent livre, Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados, publié en 2023. C'est vraiment un document qui me permettait de faire le point sur comment accompagner les jeunes et les moins jeunes aussi, finalement, dans cette construction, hein, sur les questions de genre et de sexualité. Et l'idée, c'était de donner, voilà, des éléments d'appui, des éléments d'échange pour pouvoir, en tout cas, mieux penser, en tout cas, ces sujets-là pour éviter énormément de backlash, de résistance et de réactance. Et voilà, c'était vraiment une ambition très positive et j'ai voulu une dimension aussi apaisante par l'ouvrage.
D'accord. Bon, alors, je sais pas si tu as entendu Glitch dans son édito, elle a dit on a ras-le-bol des gars qui sont là, un peu plus à rien dire et tout ça. Mais toi, Vincent, d'où parles-tu ?
Alors moi, d'où je parle ? Alors moi, où est ma place ? C'est une belle question.
Oui.
C'est difficile de savoir où est sa place. Peut-être que je dirai deux, trois mots sur ce sujet plus tard, mais d'où je parle ? Moi, je suis une personne queer. Et je trouve que c'est important de le dire. J'ai mis longtemps, en fait, à m'identifier comme personne queer. Pas à m'identifier, plutôt à me présenter ainsi. Voilà. J'ai eu souvent l'impression de pas être assez légitime pour me présenter comme une personne queer, que je ne répondais pas, finalement, aux exigences, finalement, d'une personne queer et que, voilà, je ne voulais pas être moi-même taxé de washing, en fait, sur la question. Et j'ai vraiment mis du temps et maintenant... ça fait du bien de se dire que oui, on peut le préciser, le dire et que voilà, on est obligé d'occulter une partie de soi. Voilà, se taire pour exister, c'est fatigant. Et à un moment donné, je pense que s'affirmer en tant que soi-même, c'est déjà un grand pas. Et je crois que le livre m'a fait cet effet-là aussi, de m'affirmer un peu plus sur ce sujet-là et de me dire, mais non, mais en fait, tu peux le dire, tu es queer et tu n'as pas de compte à rendre, en fait, à qui que ce soit. Voilà.
D'accord. Merci. Alors, quand je te pose la question, d'où parles-tu? J'ai envie de te dire aussi, et à qui parles-tu? C'est-à-dire, à qui s'adresse aussi ce livre?
Alors, grande question aussi. En fait, l'ouvrage s'adresse... entre guillemets à tout le monde, mais pas que. Bien évidemment, je me doute bien que les personnes concernées vont y trouver des choses à l'intérieur qui font référence à des vécus, à des situations qui sont bien problématiques, qui ont été évoquées dans l'édito aussi. Oui. Voilà, des choses qui sont épuisantes, fatigantes. Mais le titre est ironique aussi, c'est pas pour rien. L'idée, c'est de s'adresser aussi aux personnes que j'appelle non concernées dans l'ouvrage. Toutes ces personnes qui se disent fatiguées, mais qui ne sont pas vraiment touchés par cette fatigue de genre qui est une fatigue construite, socialement construite, et qu'on ne choisit pas, et une fatigue... Moi, je parle de processus d'usure, en fait. Je pense que cette expression, pour moi, est importante. Je fais un parallèle un peu avec un peu le burn-out quelque part, mais pour moi, il y a des stades. Et en fait, à partir du moment où on est dans des fragilisations psychiques, matérielles, physiques, on est sur un processus d'usure qui a des effets intenses, en fait, sur les vécus, sur les personnes... Et à côté de ça, vous avez des personnes que j'appelle les gender fatigués qui sont plus dans une, on va dire, dans une lassitude, dans une exaspération permanente du sujet. C'est vraiment une lassitude. Et c'est pour ça que j'ai essayé vraiment dans l'ouvrage de distinguer les deux en disant, bah voilà, à quel moment on peut vraiment se dire fatigué et à quel moment, bon, je comprends qu'on puisse être lassé, mais on peut pas mettre sur le même point, sur le même, en tout cas, le même horizon, en fait, deux fatigues qui ne sont pas du tout les mêmes. Et je voulais vraiment pointer là-dessus et essayer de remettre un petit peu de vrai là-dedans.
Et du coup, je te posais la question aussi de qui es-tu, à qui parles-tu ? On a peut-être oublié de le préciser, mais je le rappelle, hein, tu es formateur indépendant sur les questions de genre et de sexualité. Tu te décris aussi dans ton ouvrage, et c'est le qui es-tu, tu as dit queer. Est-ce que allié, militant, je te laisse ouvrir ce champ-là, en tout cas y répondre, et tu t'adresses à nous tous te concerner, parce que c'est que la fatigue de genre. Est-ce que c'est un livre militant ?
C'est un livre clairement militant. Et ça m'a fait un bien fou aussi d'écrire un livre militant. Avec mon éditeur, on voulait vraiment un livre hybride entre le que sais-je, presque. Hein. Mmh. Et en même temps, la prise de position, et vraiment cette collection-là, elle est sur la prise de position. Et en même temps, vous voulez un livre accessible, parce que si j'avais un degré de militantisme, j'ai envie de dire trop aigu, en fait, dans l'ouvrage, peut-être que j'aurais perdu des personnes en route, et c'était pas l'idée, le militantisme. Là, pour moi, il est vraiment sur la défense, à un moment donné, encore une fois, des droits humains. Hein. Ça, c'est quelque chose qui m'irrigue depuis longtemps. Et je me suis vraiment ancré là-dedans, et parce qu'à un moment donné, il y a des choses, voilà, j'en peux plus non plus d'entendre des discours, des propos qui sont complètement à côté de la plaque. Et à un moment donné, j'avais envie de remettre un peu d'ordre là-dedans. Et tu l'as dit, je suis aussi allié féministe. Et pour moi, c'est vraiment, c'est crucial aussi pour moi. Et je voulais vraiment passer un message dans l'ouvrage. Hier, Vincent Hédin, journaliste aussi, essayiste, en fait, a publié un commentaire, en fait, sur mon ouvrage que j'ai vraiment adoré parce qu'en fait, ça illustre parfaitement ce que j'ai voulu faire. Il me le dit vraiment. Je vous lis, hein, en s'appuyant sur un immense matrimoine, et ça fait du bien de lire un allié féministe qui ne pille pas la pensée des féministes comme d'autres personnes peuvent le faire. Je ne citerai pas là. Mais pour moi, c'était vraiment important de donner, en tout cas, à entendre des propos, et je ne voulais absolument pas m'approprier des propos qui ne sont pas le mien, parce que je connais la violence envers les personnes concernées qui ont défendent des idées et qui subissent en fait un flot de violence perpétuelle. Et hors de question que là, moi, j'arrive et puis tiens, j'ai des nouvelles idées et je vais hop, tirer la couverture vers moi. C'est aussi ça, le système de genre. Et à un moment donné, il faut en avoir conscience et faire en sorte de faire les choses correctement. Donc pour moi, ça, c'était une des clés vraiment importantes dans l'ouvrage.
Et on te remercie pour ça. Tu citais la collection Que sais-je ? Je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe toujours, Que sais-je ?
Alors, je crois que ça existe toujours, ouais. Ouais, ouais, je me sens que ça existe toujours.
Mais je trouve que la comparaison est assez juste, parce que pour avoir lu, et je crois que c'est un des premiers retours que je t'ai fait, on est effectivement dans quelque chose de très fluide, de très concis, de très clair. Il y a une vraie aussi volonté pédagogique, il me semble, dans cet ouvrage. Est-ce que tu es OK avec ça ?
Je suis complètement OK avec ça.
Il n'est pas fatigué de faire de la pédagogie dans ses livres.
C'est ce que je voulais dire.
C'est un ancien enseignant.
La charge pédagogique qui est présente sur le sujet, mais dans le livre, n'a pas été présente. Au contraire, ça a été des vitamines pour moi, pour le coup, de me dire je fais quelque chose de bien. Voilà. En tout cas, c'est l'opinion.
Mais quand on le choisit, il n'y a pas de problème. Hein, c'est toujours la même chose.
Et du coup, Glitch, dans son édito, a employé, bon, en plus, elle parle très bien anglais, donc ça, c'est super, l'expression anglaise, puisque c'est un concept qui nous vient des États-Unis, la fatigue de genre, c'est ça ?
Entre autres, ouais. Ah ouais, et notamment dans le monde du travail, en fait, au départ. Mais c'est vrai que vous allez trouver souvent l'expression en ligne gender fatigue. Hein. Alors, désolé pour mon anglais un petit peu. Voilà. Mais merci beaucoup. Mais l'idée, c'est que quand on parle de gender fatigue de manière générale, en fait, on la destine davantage, c'est ce que je disais en introduction, aux personnes qui se disent fatiguées, qui sont plus lassées, en fait. La fatigue de genre, en fait, l'expression, elle est davantage militante, d'ailleurs, plus qu'universitaire. Et l'idée, c'est qu'elle devienne universitaire, ce serait super. Je pense qu'il y a matière à ce que, de toute façon, ça le devienne, mais puis il y a beaucoup de sujets universitaires qui, au départ, étaient militants.
Oui.
C'est aussi une occasion de le rappeler. Voilà, je pose ça là. Mais l'idée, c'est que de se dire, voilà, encore une fois, il y a deux choses distinctes. Et moi, c'est aussi l'idée que quand... En fait, on aperçoit ces expressions, on les lit, on les entend, qu'on arrive à dire qu'est-ce qu'il y a derrière exactement et quel mécanisme, en fait, il y a derrière. Est-ce qu'on a en face de soi une personne réellement épuisée par le système, qui est fragilisée, et pour le coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et de l'autre, est-ce qu'on a plus une personne, encore une fois, qui est dans l'inconfort, par exemple, parce qu'il faut faire attention à un moment donné à l'usage d'un pronom. Moi, je l'ai déjà vu, ça. On m'a dit, tu sais, pour nous, c'est fatigant aussi de faire attention au pronom. Donc, l'idée, c'est d'entendre, d'écouter, d'accueillir, parce que par l'agressivité, on arrivera pas à grand chose. En revanche, c'est l'idée de se dire, ok, pédagogiquement, qu'est-ce que je peux te dire maintenant pour que tu comprennes que la balance, elle n'est pas équitable, en fait. Que toi, tu es inconfortable sur la situation, mais qu'à côté de toi, il y a des gens qui sont en réelle souffrance. Toi, c'est pas une souffrance, c'était juste un inconfort, voilà, qui te demande, oui, allez, de changer de vocabulaire, et je pense que c'est faisable, voilà. Et il n'y a rien de politique là-dedans.
Et donc, tu l'as dit, c'est pas forcément un concept qui est aujourd'hui objet de recherche. Mais tu as pris le parti dans ton ouvrage de solliciter des adelphes anonymes. Hein, non, il n'y a pas de prénom. Mais aussi des chercheuses qui sont reconnues. Hein, tu vas peut-être donner aussi quelques noms là. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir ces deux aspects sur la fatigue de genre, ces deux témoignages, ou en tout cas ces deux retours?
Alors, moi, l'idée, effectivement, quand j'ai réfléchi au témoignage, déjà, pour moi, c'était une priorité. C'est-à-dire que je voulais vraiment donner la parole aux personnes et je voulais vraiment mettre en avant les témoignages que l'on m'a transmis avec une grande confiance. Certains témoignages extrêmement touchants. Je pense à celui sur la gender envie, moi, qui m'a profondément touché. Je veux qu'on entende la voix des personnes concernées. Et surtout, je voulais mettre au même plan, quelque part, en fait, la parole d'universitaire, la parole de personnes militantes, des paroles de personnes qu'on ne connaît pas. Mais au fait, au final, on vit tous et toutes les mêmes choses, en fait, et que cette fatigue, elle atteint tout le monde. Je parle aussi des universitaires pour un point important, c'est-à-dire qu'il y aura des suites, en fait, à cet ouvrage. Et j'évoquerai notamment bientôt la question de la research fatigue. Ça va, la prononciation?
Ouf.
Voilà. En fait, ça, pour le coup, c'est une réalité aussi. Il y a un travail qui est fait dessus. Voilà. Notamment les chercheurs queer, hein, qui connaissent bien cette fatigue-là. Et c'est de se dire, à un moment donné, comment, en fait, on arrive à porter des voix, en fait, quelles qu'elles soient, et de se dire que, eh bien, nos adelphes, effectivement, sont épuisés, mais les universitaires aussi, les personnes militantes, bah, on le sait bien, hein, ça, la charge militante et l'épuisement militant, on le connaît aussi, hein, l'impuissance apprise avec la tentation d'envie de renoncer parfois, ça, je le dis tous les jours. Je vois des témoignages, et encore aujourd'hui, on me dit, là, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de lâcher, j'en peux plus. Et puis, quelque part, à un moment donné, dire, tiens, il y a une petite phrase qui vient, une phrase positive, un élan qui vient, et alors, on retrouve du courage, on retrouve, enfin, un petit peu d'élan, et ça, c'est important de pas l'oublier. Et moi, vraiment, les voix, encore une fois, hein, c'est un livre qui est traversé par des voix. Et pour moi, c'était essentiel de faire entendre ça, voilà, de donner la parole, même anonyme, en fait. Je veux qu'on entende les personnes et vraiment les gens qui se sont confiés à moi. Déjà, encore une fois, je les ai remerciés plusieurs fois de cette confiance-là. Mais on sent, en fait, quelque chose qui vient vraiment du cœur. En fait, c'est extrêmement profond. On sent quelque chose, voilà, qui a été gardé depuis longtemps. Et d'un coup, voilà, c'est déversé et on sent bien ce besoin, à un moment donné, de pouvoir dire les choses et de te dire, là, c'est OK, je peux le dire et ce sera bien reçu. Ça, c'est important.
Eh bien, très bien. On va continuer cette discussion peut-être après une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez de l'autre côté?
Avec grand plaisir.
Ah, avec grand plaisir. Alors, là, on va écouter la playlist de Vincent. Alors, non seulement on va parler de son livre, mais aussi on va partager sa playlist. C'est quoi ton premier choix qu'on va écouter?
Alors, mon premier choix, alors, c'est Ascendant Vierge, Discothèque.
a priori.
Retour sur les clitoriciennes 88.3 Radio Campus et nous accueillons aujourd'hui Vincent Patignès donc pour son ouvrage paru chez Double Ponctuation, Comment survivre à votre fatigue de genre. Alors Vincent, tu nous as dit que tu avais fait appel à des adelphes anonymes mais aussi des universitaires. Et parmi ces universitaires, il y a Martine Delvaux. Tu peux nous dire qui c'est exactement, Martine Delvaux ?
Oui, Martine Delvaux. Alors, si vous ne connaissez pas Martine Delvaux, je vous invite à découvrir son ouvrage sur le Boys Club. Et alors, je pense que parler de la fatigue de genre sans, à un moment donné, essayer d'aller voir un peu ce qui se passe du côté du Boys Club, pour moi, c'était vraiment, et encore une fois, essentiel. Et là, pour le coup, c'était donner la parole à une personne très au fait, forcément, de ces sujets de masculinité, etc. Et encore une fois, de mettre en tension, finalement, des problématiques d'aujourd'hui qui sont liées à cette fatigue de genre, sans agresser. Hein. Vraiment, mon idée, c'était d'agresser personne, c'était plutôt d'aider à une prise de conscience. Et donc, Martine Delvaux, figure de ce Boys Club, me paraissait incontournable. Et je me suis senti privilégié, vraiment, d'avoir un retour de sa part. Je suis très honoré, en tout cas, d'avoir un extrait de sa part dans l'ouvrage.
Tout à fait. Et elle parle de l'espace public, pensé par et pour les hommes. Et elle reprend les propos de l'anthropologue urbaine Chris Blash, je sais pas si je prononce bien, qui dit face à un homme, c'est toujours la femme qui s'écarte sur un trottoir, sur une route, ou la personne non blanche. Donc je reprends la phrase, face à un homme, c'est toujours la femme qui s'écarte ou la personne non blanche. Martine Delvaux continue sur ce témoignage, ce n'est qu'un exemple des manifestations plurielles de l'ordre patriarcal blanc. C'est un ordre inéquitable, un ordre organisé, structuré, qui fatigue les personnes pour lesquelles il n'est pas pensé. Alors pourquoi je m'arrête sur ces mots de Martine Delvaux ? C'est parce que on est vraiment sur un acte banal, celui de marcher sur un trottoir, et on voit que la fatigue de genre, elle se niche vraiment au cœur du quotidien. Est-ce que c'est essentiellement cette banalisation du sexisme, par exemple, qui contribue à la fatigue de genre ? Est-ce que c'est ça ? Ce processus d'usure. Est-ce que c'est ces micro-violences quotidiennes?
En fait, c'est l'accumulation d'à peu près tout ça. C'est-à-dire que là, c'est un exemple qui peut paraître isolé, qui peut paraître anecdotique, en fait, certainement pour pas mal de personnes. Mais en fait, c'est un exemple, mis bout à bout dans une journée, en fait, quand vous subissez finalement ces situations, en fait, à longueur de temps, que ce soit dans votre environnement personnel, dans votre environnement professionnel, que ce soit sur les questions de design patriarcal, parce qu'on est aussi là-dessus, sur la manière dont, le monde extérieur a été pensé aussi, le domaine de la santé, en fait, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à un moment donné, avoir une espèce de boussole un peu empathique et de se dire, comment ce patriarcat, ou c'est plutôt, j'ai envie de dire, ces patriarcats, parce qu'en fait, je trouve que l'expression marche mieux au pluriel. Comment ces patriarcats, s'insinuent, quand on dit par capillarité, c'est-à-dire que par plein de moyens, finalement, ça s'inscrit dans une journée, en fait, d'une personne concernée. Et encore une fois, je pense que ça fait partie des choses dont on n'a vraiment pas conscience, ou alors dont on n'a pas envie d'être conscientisé quelque part. C'est-à-dire que c'est plus confortable, parce qu'à partir du moment où, en fait, on a connaissance des choses, on va attendre de nous une action, et quand on n'a pas forcément envie d'être dans l'action. Et encore, le patriarcat, on parle de système, mais on parle aussi d'action, en fait, de quelque chose qui est en mouvement, en fait, avec des solutions qui ne sont jamais pérennes, parce que les choses évoluent perpétuellement. Donc il faut se dire aussi que cette journée-là, en fait, elle est jamais la même. En plus, elle va se complexifier à longueur de temps, et que si on, à un moment donné, on ne pense pas à ces choses-là, encore une fois, on entretient cette fatigue-là, et en fait, on la cautionne, en fait, quelque part. Et je pense qu'on peut agir de manière assez simple parfois, sans avoir besoin de faire de grandes actions pour le coup, mais des mini-réactions sont quand même assez simples.
Je me permets justement de rebondir sur une mini-action. Moi, je me rappelle mes années étudiantes où vraiment les garçons chez eux n'avaient pas de poubelle dans les toilettes. Et où donc il fallait réclamer des poubelles dans les toilettes pour quand on allait chez eux et qu'on avait nos règles et qu'on voulait jeter notre serviette ou nos tampons dans leurs toilettes. Et typiquement ce genre de choses qui parfois vraiment étaient, j'avais des réactions de non, je ne le ferai pas parce que moi je n'ai pas besoin de poubelles dans mes toilettes. Et c'est ce genre d'action qui effectivement à l'usure devient très fatigante.
Complètement, complètement. Vraiment, ce processus d'usure, il est réel en fait, hein. Il est construit, il est organisé surtout en fait. Quand on parle de fatigue, il y a des stades de la fatigue. On n'est plus à un moment donné où en fait, quand je parle des stades de la fatigue, là pour le coup c'est très clinique hein, ce que je vais dire, parce que je m'intéresse beaucoup à la partie clinique, ça me paraît aussi important pour comprendre le sujet. On n'est plus dans la phase 1 en fait, où le simple fait de dormir permet de se reposer, de retrouver une énergie. Non, quand à un moment donné on arrive au stade 2, 3, 4, etc., là les choses sont installées et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Voilà, donc je pense que c'est une mission pour tout le monde, oui, de réagir à minima.
J'imagine que il ne t'a pas échappé le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, Vincent, ouais. Parce que je te sais toujours faire beaucoup de veilles documentaires. Et dans ce dernier rapport, on pointe deux types de sexisme, hein, ce qui est nouveau dans le rapport, dans le baromètre du sexisme. Et le baromètre distingue donc le sexisme hostile, représenté notamment par la branche masculiniste, en plein essor, mais aussi par le sexisme paternaliste ou guillemets bienveillant. Et ce que tu montres aussi dans ton ouvrage, c'est que ce sexisme paternaliste, il peut participer largement à cette fatigue de genre. Je me trompe ?
Ah, mais exactement. On est au cœur d'un des points aussi importants. C'est-à-dire que, idem, quand on parle de sexisme, il faut l'employer au pluriel. Alors déjà, il y a quelque chose pour moi aussi d'important, d'oublier le mot ordinaire quand on parle de sexisme, parce qu'en fait, dire sexisme ordinaire, ça veut dire qu'on l'a déjà banalisé et qu'on est déjà sur une problématique qui a besoin d'être désamorcée. Donc bien évidemment, en fait, le rapport pointe ces choses-là de manière... pertinente. Encore une fois, c'est des rapports pour moi qui méritent d'être lus, partagés, etc. Et encore une fois, c'est facile de le mettre de côté, de le dire oh, tiens, je vais m'en occuper après. Nous, à un moment donné, je crois qu'il y a des choses à faire partout, y compris encore une fois dans son environnement aussi professionnel, de se dire là, attention, on est sur des situations de sexisme là, en l'occurrence paternaliste. Et à un moment donné, il faut le spécifier aux personnes. Et le nommer, en fait, c'est-à-dire que si on n'en a pas connaissance, on peut pas le nommer. Et si on nomme pas, en fait, on n'agit pas, en fait, sur cette fatigue. Et en fait, on se rend pas compte qu'à la fin de la journée, en fait, il y a plein de gens qui rentrent chez eux, en fait, épuisés, éreintés, en disant, et pas vivement demain, quoi. Voilà. Et quand on parle de domination au travail, en fait, ça en fait partie aussi. C'est un des points sur lesquels je travaille aussi parce que je trouve que les choses sont liées. Et cette fatigue, ce fatigomètre, en fait, quelque part, hein, qu'on pourrait mesurer, pour moi, en fait, s'illustre par toutes ces situations, encore une fois, de sexisme qui n'est pas, encore une fois, nécessairement frontal, agressif, hein, mais qui est bien plus insidieux. Et je trouve que c'est même parfois pire parce qu'en fait, on ne se rend pas compte sur le moment, ou en tout cas, l'auditoire ne se rend pas compte que ce qui vient d'être prononcé a une dynamique derrière paternaliste ou patriarcale, ou ce que l'on veut, ou broligarchique. Je peux vous citer pas mal de synonymes.
J'adore ce mot, broligarchique.
Broligarchique, fratriarcale aussi, voilà. J'ai des mots, en fait, que j'aime beaucoup, mais qui, pour moi, en fait... existe à un moment donné, mais en fait on n'en parle pas, et à un moment donné si on les met pas en lumière, on se rend pas compte de ce qui est produit en fait, et de ce qui est entretenu tout simplement dans son quotidien, et on voit pas où est le problème, encore une fois. Et puis si on ose parfois dire quelque chose, c'est là où on en vient, on peut plus rien dire, etc. Donc on renverse encore une fois bien évidemment les actions, et là ça c'est plus possible.
Et t'as parlé d'un fatigomètre.
J'ai parlé d'un fatigomètre.
Mais tu as créé un fatigomètre.
Ça existe. Et je me suis amusé à créer un fatigomètre. Je me suis dit que c'était important d'accompagner l'ouvrage par quelque chose aussi de visuel et d'accompagner les personnes sur des situations et surtout les rendre encore plus lisibles. Certes, il y a des témoignages, mais je voulais vraiment ancrer ça dans des éléments encore plus concrets, des situations que l'on peut vivre en expliquant que, attention, hein, on connaît bien les dynamiques de violentomètre, hein, du vert au rouge, par exemple, hein, et de se dire que quand on commence à être même dans le jaune, là, il y a déjà un problème, et que si on ne réagit pas, en fait, à ce stade de la fatigue dont je parlais tout à l'heure, notamment de se dire, si j'arrive plus à me reposer, à dormir, et je ne récupère pas, attention, c'est que je suis en train d'arriver dans le orange. Et souvent, on minimise, on banalise, on se dit, tiens, non, c'est pas grave, on va laisser passer. Non, il y a une vraie souffrance, peut-être derrière, une vraie fragilisation, en tout cas présente, encore une fois, qui s'accumule par plein d'autres choses. On ne connaît pas la vie des gens. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être en face de vous, vous avez, je sais pas, un couple sur un parcours de PMA, par exemple. Là, je pense à une histoire, j'ai une histoire en tête sur un couple de lesbiennes, en fait, sur un parcours PMA, à qui on demande, bien évidemment, des actes notariaux, parce que c'est demandé, mais ça nécessite aussi des notaires safe, en fait. Ça, on n'en parle jamais. Voilà. Donc, c'est de se dire, on n'a pas connaissance, finalement, de ce que vivent les gens en face de nous, et c'est de se dire, si je peux proposer des outils qui permettent à un moment donné de se dire « Ok, je vais essayer de contextualiser un petit peu et de comprendre finalement les personnes en face de moi, j'ai l'impression en tout cas de faire au mieux, en tout cas pour accompagner, de faire une démarche, enfin de plutôt de produire une démarche qui soit complète, voilà, et pas incomplète.
Et donc on le trouve où ton fatigomètre ?
Alors ça, si vous me suivez sur les réseaux, vous le retrouverez assez facilement. Je suis assez présent à peu près partout, sur mon site aussi, voilà, respective formation. J'ai tout centralisé dessus. Hein, c'est ouvert, hein, c'est vraiment accessible, hein, rien de verrouillé. Donc vous pouvez y aller et au plaisir encore une fois d'échanger. Voilà, je reçois beaucoup de messages justement de personnes qui me disent ah ben on comprend mieux la situation maintenant, on n'avait pas compris qu'en fait ça c'était problématique, on va peut-être faire preuve de vigilance maintenant.
Et donc tu es très réactif aussi sur les réseaux et tu aimes échanger.
J'aime échanger, je trouve que c'est important. À partir du moment où on publie, à partir du moment où on s'expose, déjà il faut accepter toutes les remarques quelles qu'elles soient, mais c'est surtout que je trouve que répondre pour moi c'est essentiel. C'est pas toujours agréable quand des fois on essaye d'échanger avec des productions, avec des choses et voilà, on se heurte au silence, j'avoue que c'est fatigant. Moi, j'aime, en tout cas, si je produis, si je présente, j'essaye au mieux, en tout cas, de pouvoir répondre, de réagir, quoi.
Et là, est-ce que tu te heurtes à des gens qui comprennent pas du tout l'intention ou sont dans le refus
Sur le sujet, j'en ai eu peu. Même dans les témoignages, en fait, j'ai eu très peu de retours négatifs, en fait, ou très peu de témoignages négatifs. Mais encore une fois, je pense que c'est un sujet qui cristallise aussi quelques peurs, en fait. Je sais qu'il y a une crainte aussi d'être à côté du sujet, etc., et de dire quelque chose qui ne serait pas en accord. J'ai eu aussi une blague une fois, on m'a dit « Je pense que la fatigue de gens, c'est le fait d'être vraiment très fatigué. » Bon, j'en ai pas su davantage. C'est dommage, peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser. J'ai essayé, mais voilà, la discussion n'a pas abouti à grand-chose. Mais j'ai pas eu là-dessus, en direct, en tout cas sur le livre, si j'ai eu un petit peu une femme à un moment donné, qui n'a pas lu le livre, mais qui m'a quand même fait une remarque en me disant « Oh là là, ce terme fatigue de genre, c'est en gros, on se plaint d'être violé, nanana. » Donc je trouve que c'est un peu raccourci, parce que moi, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin quand même de ça, et de pouvoir échanger aussi, mais j'ai pas eu sinon de réaction autre.
T'as beaucoup parlé aussi de l'impact de la fatigue de genre sur la santé. Hein. Tu disais que c'était le prisme de la santé, était quelque chose qui importait pour toi. Mmh. Et dans ton ouvrage, justement, tu cites aussi, tu affirmes que l'androcentrisme de la santé, hein, aujourd'hui du secteur médical, peut être aussi un accélérateur de la fatigue de genre. Ai-je bien compris ?
Oui, exactement. Et je crois que le rapport de la Défenseure des droits là-dessus est assez clair aussi. En fait, quand je parle de fatigue de genre, on est d'accord que je parle bien évidemment des femmes, mais aussi des personnes minorisées, en fait, quelles qu'elles soient. Et là, pour le coup, les discriminations en santé, eh bien, pour les personnes concernées, sont extrêmement violentes, en fait. On le sait depuis longtemps, hein, la médecine a été longtemps pensée par des hommes pour les hommes, et donc du coup on a exclu, hein, dans les questions de recherche, bien un grand nombre, la moitié de la population déjà, hein, et puis il y a une manière effectivement de fuir, en tout cas de ne pas donner des créneaux, en fait, d'écourter par exemple un entretien, de minimiser aussi la souffrance d'une personne en face de soi. On connaît, hein, tous ces mécanismes-là en fonction de la personne qui est en face de soi, on va vous exagérer quand même, etc. Ou alors on va passer complètement à côté du diagnostic parce que, eh bien, on parle beaucoup de... Il y a une expression que j'aime beaucoup, hein, c'est l'épistémologie de l'ignorance, en fait. Et en fait, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que même dans les champs épistémologiques scientifiques, on peut passer parfois à côté des réalités par une ignorance, en tout cas, qui est aussi documentée. Et si en plus, on a des sujets qui sont liés aux questions queer, aux questions trans, aux questions féministes, en fait, on a des thématiques qui sont vraiment un peu blacklistées, on parle de logique d'occultation, d'ailleurs, en fait, sur ces sujets-là. Et en fait, on ne prend pas au sérieux, en fait, les sujets féministes, queer, trans, etc.
Et pas que.
Et creep aussi, et validiste, etc., voilà. etc. Donc, voilà, et c'est un vrai souci.
Ouais, tout à fait. Donc, tu es aussi dans une perspective intersectionnelle dans ton ouvrage ?
Absolument. Je suis très, très ancré aussi sur cette question-là. Je crois vraiment, dans les lectures que j'ai faites aussi récemment, je le retrouve beaucoup, ça aussi. Et je vois le mal, en fait, que cela produit quand les mouvements ne sont pas intersectionnels et, en fait, invisibilisent, par exemple, les personnes handicapées. Parce qu'on invisibilise les personnes aussi, les personnes noires, on invisibilise les personnes musulmanes, etc. Et malgré en fait parfois des discours qui sont très ouverts et qui sont un peu washing, etc. Et ben en fait non, en fait c'est pas ça. D'avoir une démarche de convergence, pour moi, ça nécessite vraiment, en tout cas, de se décentrer quelque part un petit peu parfois de quelque chose de mainstream qu'on pourrait avoir et d'aller sur des, en tout cas, d'autres frontières, en tout cas, et de s'ouvrir un petit peu, eh bien, aux autres personnes qui vivent finalement les mêmes choses que peut-être que nous, en fait. C'est-à-dire que les mécanismes sont souvent les mêmes. Dans la fatigue de genre, en fait, une oppression, en fait, elle subit les mêmes mécanismes et on va vivre les mêmes, entre guillemets, hein, vous comprenez ce que je veux dire, mais des freins qui renvoient à des mêmes structures, à des mêmes organisations, en fait. Et l'idée, je trouve que si déjà entre nous, voilà, si on perd du temps à se tirer aussi un peu dans les pattes entre nous et si on perd du temps, et on le retrouve dans le côté militant, ça aussi, un peu, il y a des tensions aussi parfois, hein, c'est pas un secret, et je trouve que voilà, on perd un peu de ça alors qu'on a tellement de choses déjà à faire pour avoir un système qui est plus vers une justice de genre, en fait, sur laquelle je crois davantage.
En même temps, je pense qu'on va pas nier qu'on est dans une période de backlash assez fort, hein, on parlait des masculinistes aussi, et on voit bien aussi comment ça peut fragiliser aussi les militants, militantes, queer, les personnes, les femmes, les personnes minorisées, enfin voilà, on est d'accord.
C'est épuisant, tu voulais prendre...
Je voulais juste dire que sur ce sujet-là, il y a les dernières manifestations aux États-Unis anti-ICE, où il y a notamment une dame qui a pris la parole, une dame blanche, où il y avait un militant d'extrême droite qui était là, oui, ils sont où les gens noirs pour militer avec vous ? Et où elle a répondu très justement, ils n'ont rien à faire là, là c'est dangereux pour eux, ils vont se faire tuer par la police, ils n'ont rien à faire dans ces manifestations, c'est à nous d'être dehors. Et je crois que ça c'est très juste, il y a un moment où les personnes qui sont en situation de privilège dans des moments effectivement de backlash comme tu le décrivais, c'est de notre devoir, je dis moi en tant que personne privilégiée, d'y aller pour ceux qui n'ont pas la chance et le privilège en fait de pouvoir y aller.
De toute façon, oui, ça nécessite de devoir se protéger aussi beaucoup, hein. C'est-à-dire que quand on est dans le militantisme, eh bien, il faut aussi penser à se protéger. Et parfois, vous avez des environnements qui peuvent être dangereux. Donc, on peut aussi comprendre que parfois, on n'a pas toujours aussi l'énergie et la force aussi même quand on n'est pas sur du présentiel, même à distance, parfois de prendre la parole sur un sujet en ligne, etc. On sait que c'est compliqué parce que on a connaissance des mécanismes, on sait très bien ce qui va se produire et que parfois on va renforcer en plus l'idée de la personne. Donc si on rentre dans l'analyse, on va renforcer encore plus davantage les questions de fatigue. Quand on a conscience, hein, je parle des injustices épistémiques, notamment un seul grand travail de Miranda Fricker, qui vient d'ailleurs de paraître, vient de sortir l'ouvrage de ses travaux que j'attendais depuis très longtemps. Et les injustices épistémiques, notamment, il y a les injustices testimoniales, en fait, c'est-à-dire que, en fonction de la personne que vous êtes, en fait, on va vous mettre au placard, etc. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Quand vous en avez conscience, vous savez sur quoi, en fait, vous allez vous heurter quand vous tentez de prendre la parole ou vous tentez d'être visible à un moment donné. Et parfois, en fait, on est fatigué, on n'a pas la force, en fait, de pouvoir réagir à tout. Je le dis aussi dans l'ouvrage, hein, j'ai des témoignages qui vont dans ce sens-là. C'est pas toujours facile, ouais, d'avoir, ouais, des fois par rapport à une horde, parfois par un raid numérique sur des choses, de se dire j'y vais, là, j'y vais pas, puis ça va donner quoi finalement ? Ça va rien donner, donc je vais m'épuiser, et puis en fait, je vais avoir envie de renoncer davantage, et c'est pas l'idée. Bon, bah là, mais c'est frustrant parce qu'en fait, on a l'impression de laisser passer des choses parfois compliquées, quoi.
Ou bien, parce que là, effectivement, tu fais planer le spectre du burn-out militant, hein. C'est un petit peu ça, là, qu'on voit, hein. C'est-à-dire, et des stratégies qui disent de renoncement et d'évitement, et c'est peut-être aussi ce qu'attendent les méchants d'en face. Mais peut-être aussi que ça peut nous amener à nous radicaliser, à radicaliser nos positions. C'est ce que tu évoques, en tout cas, dans ton ouvrage.
Bien sûr que parfois en fait on se met radical et au départ ça peut surprendre, en fait, dire bah voilà, est-ce qu'il faut avoir une dimension radicale, est-ce que ça peut faire peur, mais en fait je crois qu'à un moment donné il n'y a pas le choix parce qu'en fait il faut aller loin parfois dans ses propositions. Là j'ai une grande pensée pour Stéphanie Lamy qui se mobilise énormément sur les questions des masculinismes et qui est attaquée violemment de manière régulière. Je trouve ça horrible et elle a une position qu'on peut dire radicale, mais dans le sens ses propos sont clairs, c'est-à-dire que le propos qu'elle tient est documenté et sourcé et expérientiel en plus, etc. Donc à un moment donné, il faut affirmer de manière très claire ses choix. Par contre, effectivement, en face, la violence, elle est aussi radicale. C'est-à-dire que ça, on peut pas la mettre de côté. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour pouvoir, du coup, un petit peu accompagner ces personnes-là? On sait qu'il y a des choses qui vont vite. On sait qu'un jugement peut être transformé en projet, hein, explique Sarah Ahmed. Et moi, cette phrase-là, elle me paraît extrêmement importante, hein. un simple jugement, en fait, et même dans les injustices épistémiques, on retrouve hein, ces questions de jugement identitaire, en fait, qui donnent lieu justement à ces injustices testimoniales, etc. Donc, on se rend bien compte que la manière dont on va appréhender les choses, ben, à un moment donné, la radicalité, elle n'est pas que négative, elle a une tonalité négative, mais elle n'est pas que négative, ça dépend encore une fois ce qu'on en fait. Mais sur des sujets comme cela, quand on est encore une fois sur des droits humains ou sur des attentats masculinistes, on ne peut pas avoir une pensée quelque part qui ne soit pas radicale. Il faut dire les choses clairement, parce que là, c'est clairement le cas. Et là, le problème qui se passe aussi, vous avez peut-être vu aussi, mais il y a des hommes qui ont surfé sur un peu la vague justement de Stéphanie Lamy notamment. Et ça, c'est épuisant parce qu'en fait, vous avez des personnes qui militent, qui se battent et qui subissent des attaques, des menaces hein, de mort aussi souvent. Et vous avez des hommes qui arrivent en disant « bah tiens, je vais faire la même chose que toi, en moins bien. Et puis en fait, je vais essayer de tirer la couverture vers moi. » Et en fait, c'est ce qu'on voit là en ce moment. Bah, ça, c'est pas possible, c'est scandaleux en fait. Parce que pour le coup, on a des gens, encore une fois, qui risquent leur vie. Voilà.
Alors, c'est évidemment le tableau est assez noir, hein, parce que il y a aussi quelques formes, quelque part un recensement des fatigues de genre aujourd'hui telles qu'elles s'expriment. Et ton livre quand même ne s'achève pas là-dessus. Il se termine par une partie qui sous forme de question, comment combattre la fatigue de genre. Alors est-ce qu'on se met au lit, on binge une série, on prend un thé? Qu'est-ce qu'on fait? T'as quelques petits tips?
Bah, un thé, je crois que c'est bien déjà, mais moi j'aime pas trop ça. Mais du coup,
un café donc.
J'ai dû trouver un plan B, après je vais pas dormir, alors du coup j'ai dû trouver. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, pour sortir un petit peu de ça, j'ai envie de parler de collectif quelque part, mais c'est un peu simpliste. Hein, on sait que
Non, c'est pas simpliste, c'est très compliqué le collectif. Voilà, mais c'est effectivement notre porte de sortie.
C'est dans le sens où on a été tellement divisé, en fait, tout a été fait pour que de toute façon on soit individualisé. Donc le problème c'est que ça va être long, déjà, pour reprendre un peu ce processus-là. Moi, j'ai envie de... Quand je parle de queeriser les choses, moi, c'est un verbe en ce moment que j'aime beaucoup. Je vais l'expliquer, mais c'est-à-dire que pour moi, queeriser le système, c'est déjà fissurer le système. C'est-à-dire que je crois plus trop à la persuasion. Je trouve que on se heurte parfois...
Pas de pédagogie, donc.
Non, mais la pédagogie, mais pas que. C'est-à-dire que la pédagogie peut agir d'une certaine manière, mais c'est que si on arrive dans un côté trop, j'ai envie de dire, anglais, uniquement persuasion, on va pas forcément arriver à ses buts. Alors que quand on arrive finalement sur une dynamique plutôt de fissure, c'est là qu'on va commencer à pouvoir s'irriguer un petit peu quelque part dans le système et commencer un peu à le travailler de manière un peu plus progressive et s'irriguer progressivement un peu partout. Et c'est là, en fait, que je trouve intéressant, en fait, le processus. Quand je parle de queeriser le système, c'est repenser le système de santé, c'est repenser aussi, là, j'ai un livre qui s'appelle sur les algorithmes queer, bah, c'est queeriser les algorithmes aussi, en fait, quelque part. Donc, c'est-à-dire que si on a cette approche, quand je dis queer, hein, c'est vraiment d'ouverture, hein, c'est pas une approche qui est destinée aux personnes queer, hein, parce qu'il y a des raccourcis qu'on peut entendre. Non, il s'agit d'une approche qui soit très ouverte et qui reconnaisse aussi, ce que j'ai envie d'ajouter juste un dernier point sur mon approche queer, il y a une partie aussi matérialiste qui me paraît importante aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi reconnaître quand même les corps aussi dans tout ça. J'exclus pas ça du tout parce que queer, souvent on dit que c'est un peu subjectif, c'est un peu lunaire parfois aussi, alors que non, en fait, il y a une vraie dynamique très concrète derrière, mais il faut pas oublier les existences derrière, les réalités des corps en fait et des personnes derrière.
Merci pour ce message insurrectionnel qu'on adore. Allez, queerisons la vie et on va queeriser aussi un peu la tête en écoutant un petit morceau. Mais avant, je vous rappelle les références de l'ouvrage « Comment survivre à votre fatigue de genre » donc de Vincent Patignaise aux éditions Double Ponctuation. Et merci pour cette belle présentation approfondie et riche. Glitch, toi, tu avais encore un mot à dire avant qu'on passe à Lucky Love?
Oui, je voulais juste recommander, mais c'est bien parce que ça rebondit avec le concept d'intersectionnalité. Je voulais recommander la chaîne YouTube Histoire Crépue. J'imagine que plein connaissent, mais bon, c'est une très très bonne chaîne YouTube. Et surtout, une vidéo en particulier qui s'appelle « La race est un genre à part entière ». Donc qui explique très bien comment c'est pas pareil d'être une personne racisée et que voilà. C'est très très intéressant, toutes les vidéos sont géniales, enfin ça explique très très bien plein de sujets là avec tout ce qui se passe avec les différents maires racisés qui ont été élus, ça se penche beaucoup sur la question, c'est très intéressant. Voilà, je vous recommande particulièrement ça.
Eh bien merci Glitch et puis on écoute ton deuxième choix musical. Vincent, tu veux nous en dire un petit mot, Lucky Love?
Alors, Lucky Love, Masculinity, je crois que cette chanson est parfaitement adaptée au sujet du jour. Voilà, vraiment écoutez vivement, enfin, les paroles, il y a des choses qui se passent, voilà, il faut écouter. Il faut les partager aussi.
C'est en français?
te la découvrir.
On écoute ça. Écoutez. Tout de suite.
I build these layers, I can meet myself. What about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Who gives you the right to run the rules? Give you the right to run the rules. What's wrong with you? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck other boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck other boys? Tell me, baby, baby, my flesh to gel my soul. I just feel like I can fall. My muscles not sharp enough, and my hair is way too long. And what about my voice? What about my voice? Do you think I sound like the other? Do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck other boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck other boys? Tell me, baby, what about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? It will be short, so I am trying.
Clitoricienne, a priori.
Retour dans les studios de Radio Campus 88.3. Nous accueillons aujourd'hui Vincent Patignès pour son dernier ouvrage « Comment survivre à votre fatigue de genre » paru aux éditions Double Ponctuation. Après avoir échangé avec Vincent sur son livre, figurez-vous qu'il est venu avec plein d'autres livres sous le bras, car c'est un peu sa spécialité. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne, enfin, je sais pas si c'est une chaîne YouTube, il nous dira, mais en tout cas, sur les réseaux, vous pouvez le retrouver très régulièrement. C'est quoi? C'est une fois par semaine, une fois par jour, une fois?
Je suis prêt, on va dire, c'est presque une fois par jour.
Souvent, ouais.
C'est souvent une fois par jour. Voilà, je vais essayer de me modérer un peu, mais.
Un livre, une minute, et donc, sur tous les sujets qui nous intéressent. On pourrait presque croire que finalement, il nous a volé notre chronique sur les plans cul, donc les plans culturels. mais au contraire, on va voir que ça l'enrichit considérablement.
On va partager.
Alors, Vincent, qu'est-ce que tu nous conseilles là?
T'es venu avec moi. Je suis venu avec pas mal de livres, je ne vais pas tout présenter, mais merci Valérie. Merci.
Oui, c'est pas bon, grave.
Pardon, à Valérie pour la présentation. En effet, je l'ai appelé ma chaîne Une Minute, un Livre, mais je ne fais jamais une minute, en fait, toujours 5, voire 6. Donc désolé, ça prend un peu plus de votre temps. Alors là, je suis venu avec pas mal de textes. Alors le premier que je vous propose, Mario Bellatin, Salon de beauté. Aux éditions Cambourakis 2026, un très court texte mais extrêmement poignant. Moi j'ai pris une grande claque, hein. C'est un texte qui ne nomme jamais explicitement le sida, hein. Bellatin reste dans une indétermination volontaire, mais on imagine bien la situation. Dans son salon de beauté, devenu mouroir, le narrateur évoque sa vie, son ancienne vie, ce qu'elle est aujourd'hui. Il accueille bien des hommes afin de les accompagner dans leur dernier soupir, sans logique médicale, mais avec une forme de règle interne. On sait peu de choses, des corps malades, isolés, en recherche d'aide, de soutien, d'écoute. L'important est de ne pas mourir seul, et ce lieu est aussi un espace de gestion des corps où la maladie impose ses règles, où s'organise presque silencieusement une forme de tri. Le texte est court, poignant, froid mais intense, distancié et émotionnellement assez violent. On suit aussi le corps du narrateur évoluer et son questionnement. Un texte vraiment à découvrir, extrêmement poignant.
Merci. Glitch, toi, tu peux te glisser ou tu peux te glitcher ou pas au milieu des recos de Vincent
pour donner ma propre reco.
Ouais.
Ok. Moi, je voulais recommander aussi une autrice, mais l'ensemble de son œuvre, on va dire, pour un peu sortir justement de la fatigue de genre et un peu réfléchir à un monde d'après. Je voulais recommander Becky Chambers, qui est une autrice de science-fiction, de ce qui s'appelle du solarpunk pour être exact, et qui est un peu différent de la science-fiction parce qu'on est sur de la science-fiction de l'intime, queer, et là en ce moment je suis en train de lire le tome 3 de sa série L'espace d'un an, qui est sa série dans l'espace, et c'est vraiment très intéressant parce qu'elle imagine des sociétés beaucoup plus égalitaires et en fait pour rêver à des sociétés qui pourraient marcher sans avoir toutes les oppressions qu'on vit aujourd'hui. C'est hyper intéressant et ça fait du bien en fait, et ça repose de voir des univers où tout se passe bien et les gens s'aiment, et voilà, il y a pas de, c'est pas qu'il y a pas de problème, c'est pas un truc utopique, mais c'est une société organisée pour qu'il n'y ait pas d'oppression systémique. Voilà. Donc, disait Becky Chambers.
OK, merci. J'ai vu Vincent aussi que tu étais arrivé avec un roman ou une BD, je sais pas, j'ai pas le temps de bien regarder, de littérature jeunesse. Alors je fais référence à ça parce que c'est vrai qu'on a peu l'occasion finalement de chroniquer des choses à destination des plus jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler
Oui, je peux avec plaisir. Donc c'est une petite BD, un mini roman graphique en fait. Donc ça s'appelle Louve Love de Sophie Bédard. On est sur une romance queer, une actualité. On est vraiment aux éditions Exemplaires, une super maison d'édition aussi. Au prisme des diversités au pluriel, bien évidemment. Donc là, vous avez une histoire d'amour entre une louve-garou et une chasseuse de louve-garou. Et bien évidemment, les choses ne vont pas se passer comme on le pense. Et les deux personnages vont se rapprocher. Et donc, on va vivre une super belle idylle. Voilà, c'est frais, ça fait du bien. Et je suis persuadé que nos jeunes lectrices vont adorer, en tout cas, l'ouvrage. Ça fait du bien. Voilà, un peu de positif.
Et du coup, j'ai bien aimé aussi l'édition, l'objet en lui-même, parce qu'il me rappelle les fantômettes que je pouvais lire et le Club des Cinq avec cette couverture un peu cartonnée et ce format.
Ah oui, c'est le cartonnage,
ça fait vraiment,
oui,
je pense que
vrai.
C'est clairement une référence à ça. Et puis, qui ont façonné nos imaginaires, enfin en tout cas je parle du haut de ma vieillesse, mais en tout cas c'était ça les récits fictionnels, moi de mon enfance, la plus émancipée c'était Fantomètre. Alors pourquoi je fais ce détour autobiographique qui n'a pas d'intérêt, sinon de montrer que quand même la force de la fiction,
ah oui,
pour construire et fissurer les imaginaires qui seraient peut-être trop stéréotypés. C'est pour ça que je trouve que finalement, cet ouvrage, il peut être très intéressant. Je pense qu'on a à reconstruire des univers de fiction à nos images.
Ah, je suis complètement d'accord. Et on est vraiment dans le prisme de ce qu'on appelle la joie queer, en fait. Et moi, dans les pistes, ça fait partie des grandes pistes. Et là, pour le coup, on s'y retrouve vraiment. Et c'est un ouvrage, en plus, qui peut être vraiment lu par tout le monde, de toute façon. Et voilà, de toute façon, qui fait du bien. Et voilà, quand tu vois, cette joie queer, elle est importante. Et voilà, il faut la porter, il faut la présenter. Et vraiment, ça, moi, un ouvrage jeunesse, je peux que recommander.
Très bien. Alors, tu as le droit à un dernier livre rapide. Oh là d'accord. Là. Donc je te suggère de faire ton choix.
J'en ai 10 devant moi, c'est
oui,
compliqué.
Bah oui, mais on n'a oui. pas dit 10. Hein.
Alors, j'en ferai donc 2. J'en ferai qu'un. Je vais aller sur Punk de John Keane, idem aux éditions Jaurès, sur les éditions Cambourakis, là, 2025, parce que c'est un ouvrage dont on a peu parlé, en fait, et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, c'est une pépite. Je vous donne quelques éléments pour étayer ma pensée. On est un texte qui est présenté comme un hymne aux amours noirs et homosexuels, à la force du désir et à la puissance érotique de la langue, jamais gratuite ni malaisante. On a une suite d'écrits poétiques et libres, construits de manière fine et progressive, alternant moments intimes, intenses et réflexifs. On y trouve un équilibre rare entre chair, pensée et histoire. Le texte est brut, direct, honnête, sans posture victimaire, avec une pudeur incarnée, sans effacer la violence du réel. L'intime est traversé par le politique sans slogan. Parmi les thèmes, l'amour, les rencontres, les rapports de domination sociale, être noir, la mémoire, la politique, les contradictions. La langue y est centrale, un lieu de pouvoir, de réparation et de partage qui interroge sans moraliser et fissure les évidences. Un texte percutant où l'écriture travaille le monde sans prétendre le réparer entièrement.
Merci Vincent, moi je vais clôturer ces différentes recos de plan cul. Moi je suis retournée réécouter un peu les couilles sur la table, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté, j'avais laissé de côté. Et je suis tombée sur une des dernières émissions qui s'appelle « Mourir de virilité ». Et pourquoi je parle de cette émission ? Parce qu'elle fait clairement écho à l'ouvrage de Vincent, à mon sens, hein, parce qu'elle évoque en creux la fatigue de genre. Puisqu'elle part du constat que l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes, ce qui pourrait être dire, bah, vous voyez bien, elles sont pas si fatiguées, en fait, elles se plaignent de rien, elles se plaignent de quoi. Sauf que, en fait, dès lors qu'on prend les chiffres de comment on vit en bonne santé, hein, l'espérance de vie en bonne santé, on s'aperçoit que les femmes sont usées, et beaucoup plus, et beaucoup plus tôt. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Ben évidemment par le poids systémique des inégalités et des charges qui reposent sur les femmes, j'ai envie de dire des charges sociétales, hein, notamment toutes les charges liées au care. Et voilà. Et donc j'ai trouvé que ça faisait quand même un lien assez fort avec cette émission que l'on vient de faire. Et pour autant, cette fatigue de genre n'est jamais nommée telle qu'elle. Donc je vous invite à écouter cette émission parce qu'il y a trois chercheuses qui sont invitées et qui complètent un petit peu ce tableau. Je ne sais pas si tu l'as entendu, Vincent.
Oui, je l'ai entendu. Et en effet, l'expression n'est pas évoquée parce que c'est une expression qui n'est pas stabilisée. Donc c'est vrai que parfois, on va tourner peut-être autour de l'expression sans la nommer parce qu'elle n'a pas d'imprégnation, encore une fois, très concrète, très scientifique. Donc elle n'est pas présentée telle qu'elle. Et l'idée peut-être, c'est... En tout cas, si j'arrive à faire en sorte que, et puis collectivement aussi, à ce que cette expression peut-être prenne un peu de place et qu'on arrive à nommer les choses autrement pour peut-être nommer les mécanismes encore une fois autrement, parce qu'on a essayé plein de choses, hein, et selon l'utopie d'ailleurs, hein, ça je le précise aussi, c'est important, mais l'idée aussi de se dire que on a énormément de manières de penser, de prévoir les choses, de les présenter, et peut-être que avec cet autre angle, on peut peut-être, en tout cas j'espère, réussir à... fissurer un peu mieux les choses et de partir sur d'autres pistes et de rappeler que bah parfois aussi l'inconfort bien peut créer des liens, voilà. Et pour si juste terminer, citer Judith Butler, hein, je rappelle aussi que la possibilité est une nécessité, voilà.
Merci, on va arriver en fait au terme de cette émission, plus tôt que prévu, en fait non, ça fait une heure, mais donc on voulait te remercier Vincent pour ta présence.
Merci.
Donc
merci
pour
à
ton
vous,
ouvrage.
Hein,
que dire d'autre ? Eh bien, les clitoriciennes, on se retrouve, nous, fin avril, début mai.
Ouais, début mai,
dans la marche des fiertés très prochainement, mais tout ça, on va en reparler. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux et notamment Insta que tient à jour Glitch et qui vous a fait plein de recos d'ailleurs tout au long du mois de mars.
Oui.
Vous pouvez nous écouter en podcast, partager, liker s'il vous plaît, faites du bruit pour les clitos. et en fait on va terminer cette émission de manière un petit peu spéciale avec un hommage avec celle qui s'est fait bolosser et qui se fait encore bolosser par les médias, la bourgeoisie et tous les... je sais pas comment on peut dire, tous les oppresseurs, toutes les oppresseuses. On parle de Loana. Et en fait, Vincent nous a signalé que Loana avait sorti un titre, je savais pas, qui s'appelle Comme je t'aime. Est-ce que vous voulez dire une petite salutation à Loana?
Bah, une grande pensée, voilà, pour une personne qui a été, tu l'as très bien dit, hein, malmenée par le système, en fait, malmenée régulièrement, etc. Je trouve que c'est, pour le coup, je trouve que c'est très violent. Moi, je sais que ça m'impacte beaucoup. Ça me fait vraiment quelque chose. Je trouve que, encore une fois, la manière dont on maltraite les personnes, la violence dont on peut faire preuve,